Allez.
Alors on essaye. C'est bon. Oui. On va essayer, dans le temps là qui nous est imparti, de faire remonter ce qui vous semble souhaitable hein, dans les différents groupes. J'ai simplement trois questions qui sont déjà remontées que je vous dis tout de suite. Une qui a trait à la honte, une autre qui a trait à l'évangile, enfin, le rapport à l'évangile, puis peut-être une autre certainement autour du terme de résurrection. Bon, mais tout ça n'empêche pas que, bon voilà, hein, chacun réagit et questionne comme ça lui vient. Alors, quelques mots simplement, à chaque fois en résonance, si vous voulez, un peu pour amorcer le dialogue qu'on peut avoir entre nous. La question de la honte, on peut la prendre de différentes façons. Il me semble que cette question-là renvoie bien évidemment à l'estime de soi. Une estime de soi qui, bien sûr, est bousculée, perturbée, questionnée. Alors, comment, si vous voulez, hein, d'abord, pourquoi on reste dans la honte? Mais je crois que on y reste parce qu'on ne trouve pas les moyens de grandir ou de retrouver son estime de soi. C'est-à-dire que c'est un peu comme une prison qui s'installe à l'intérieur de soi et on ne voit pas par quel bout on pourrait en sortir. Moi, il me semble que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher. Peut-être faudrait-il se demander comment on traverse la honte. C'est-à-dire imaginer que c'est comme un écran, comme une frontière qu'il s'agirait de franchir pour accéder véritablement à son estime de soi. Alors, pour ce faire, je crois que c'est important de reconnaître comment cette haine s'est installée et par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport au corps? Est-ce que c'est par rapport aux actes posés? Est-ce que c'est par rapport à la relation vécue? Vous voyez, c'est pas exactement pareil à chaque fois, même si peut-être les choses s'additionnent ou se mélangent. Hein. Et je pense que traverser la honte, c'est d'abord repérer, j'ai envie de dire, à partir de quoi elle naît, elle grandit. Bon, voilà ce que j'ai envie de dire, on pourra reprendre ça, enfin je donne simplement une perspective. Il y a une autre question qui était posée, qui était la suivante. De quelle façon, comment l'Évangile peut-il faire le poids pour rompre avec une addiction? Autrement dit, est-ce que l'attachement à l'Évangile peut être assez puissant pour permettre de dépasser telle ou telle pratique addictive? Ah, je dirais volontiers que l'Évangile peut être comme un moyen, si vous voulez, pour déplacer des intérêts, pour déplacer des pratiques, pour voir comment les orienter autrement. Autrement dit, à ce moment-là, le travail de l'Évangile au plus profond de soi-même, si vous voulez, c'est un travail qui permet de reconnaître que d'autres attachements sont possibles. Peut-être qu'il y a trois termes qui sont intéressants à retenir quand on ouvre l'évangile, j'ai envie de dire comme une rencontre, comme je disais ce matin. Hein. L'évangile, c'est une rencontre, c'est d'accord, c'est vrai. C'est aussi une parole. Une parole qui vient d'ailleurs, une parole et qui s'adresse à nous, bien sûr. Et alors, c'est une parole qui va permettre de prendre une certaine distance par rapport à ce que l'on vit d'habitude, par rapport à ce que l'on croit, si vous voulez. Alors, ça peut être une façon, si vous voulez, de prendre l'évangile comme une parole essentielle, comme une parole fondamentale, qui fait que, eh bien, des attachements addictifs vont être regardés d'un autre point de vue. C'est une façon de faire. Hein. Peut-être que, aussi, l'évangile va nous montrer comment, j'ai envie de dire, le désir fonctionne. Dans les rencontres de l'évangile, c'est facile de s'en rendre compte, hein, comment le désir des personnes est questionné, transformé. Et alors peut-être que cette lecture, cette approche de l'évangile peut aider, d'une manière ou d'une autre, j'ai pas envie de dire pour rompre avec une addiction, mais peut-être pour la regarder autrement. Bon, voilà ce que je pourrais dire comme ça rapidement à partir de et à propos de la puissance de la parole évangélique vis-à-vis de ce qui fait notre vie. Bon, pour l'instant j'en reste là, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est que les uns ou les autres, suivant telle ou telle question qui reste en vous, ben, vous puissiez en exprimer quelque chose, en partager quelque chose. Hein, parce que il y a eu un travail forcément de groupe ce matin, et il n'a certainement pas été sans effet. Voilà.
Que je peux, avant tout, comme c'est enregistré et comme ensuite en audio, c'est très intéressant de pouvoir entendre les questions ou entendre aussi les réponses. Est-ce que ça vous embêterait de prendre le micro quand vous avez une question ?
Bien que les questions soient répétées.
Ou alors je répète les questions. Enfin, d'accord. Oui.
Ma question, c'était, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ou passages de l'Évangile qu'on peut articuler directement à l'addiction en général et à l'addiction au sexe en particulier ?
Alors, est-ce que vous pouvez donner des récits évangéliques qui seraient proches de l'addiction ? Je ne l'ai pas dit ce matin, mais je pense que Nicodème avait une addiction à la loi. Mais je ne l'ai pas dit ce matin. Mais peut-être que ça vaut le coup de lire l'évangile de Nicodème de cette façon-là. Vous voyez ? Pour rester dans Saint Jean, la Samaritaine, c'est une femme qui est pleine d'addiction, aussi bien au niveau de sa croyance, il s'agit d'aller prier à tel mont et pas à tel autre. Hein, et puis... Samaritaine. Et puis il y a les cinq maris, oui, en plus. Oui. Mais je veux dire, ça joue sur deux registres, hein, la Samaritaine. Il y a le registre de sa croyance, puis il y a le registre des cinq maris, effectivement. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme autre... Comment ? Babel. Ah, c'est Sodome et Gomorre, ça. C'est... Ah oui, c'est autre chose, ça. Oui, tout à fait.
Non, il pourrait y avoir Madeleine aussi.
Madeleine, expliquez-vous.
Madeleine qui avait une addiction au sexe, il faut
quand même. Oui.
Oui. Donc là, c'est un. Elle a quand même, malgré tout, beaucoup aimé.
Oui.
Marie, Madeleine.
Arimaden. Et comme elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné, comme on dit. Tout à fait. Mais vous remarquerez que dans l'Évangile, quand Jésus s'adresse aux autres, il s'adresse toujours aux autres à partir de leur centre d'intérêt plus ou moins puissant. Il part toujours de là. Lévi avec ses questions d'argent, Zachée, enfin tous. Prenez toutes les rencontres, si vous voulez, de Jésus. Et c'est comme ça qu'il commence. Et je trouve que c'est assez intéressant à ne pas oublier pour nous-mêmes, à savoir que cette parole du Christ, elle risque bien évidemment de s'adresser à ce qui nous prend, à ce qui nous tient, à ce qui nous passionne. Vous voyez ? C'est une façon de lire l'Évangile.
Il y a le fils prodigue.
Bien sûr, le fils prodigue, oui. Ah, c'est une façon de lire l'Évangile, à la limite peut-être qu'elle vous appartient plus qu'à d'autres, c'est-à-dire de lire l'Évangile en voyant comment les gens qui sont rencontrés par Jésus reconnaissent, assument et traversent, entre guillemets, leur addiction. Vous voyez ? Ça peut être une façon... On lit des fois l'Évangile, à partir de l'amour des autres, par exemple, à partir de la recherche de vérité. Tout ça est juste, tout ça est vrai, mais pourquoi pas ? Peut-être là une originalité à reconnaître. Les deux, là. Enfin, les trois, je ne sais plus. Est-ce que l'addiction au sexe ne... révèle pas un enfermement sur soi, je suppose, dans le dessein d'une simple satisfaction auto-centrée. Peut-être. Peut-être, mais en même temps, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tellement singulier, tellement intime, que... c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Je le prendrais, moi, dans mon langage, si vous voulez, enfin, je prendrais cette question, si vous voulez, en disant que l'addiction, elle est ambivalente, hein. Elle est à la fois satisfaction d'un besoin, d'un plaisir, hein, et puis, en même temps, hein, une menace pour la liberté personnelle. Et cette ambivalence, elle n'est jamais totalement résolue. Donc on reste quand même dans quelque chose qui est relativement, à mon avis, aléatoire, quoi. Vous voyez ? Et ça va dans le même sens, hein. Où commence une addiction ? Est-ce vraiment une addiction si ma vie n'en est pas affectée, ni celle de mon entourage ? Ben oui, hein. Il y a un côté, l'addiction, ce n'est pas seulement une question personnelle, c'est aussi une dimension sociale. Hein ? Ça, c'est, je crois, oui. Est-ce que donc l'addiction sexuelle n'a pas son origine dans l'enfance, c'est ça ?
Dans un besoin essentiel.
Besoin essentiel, bien évidemment. Oui. Mais je crois effectivement que c'est toujours intéressant et important de repérer les origines, si vous voulez, parce que la plupart du temps, effectivement, ça s'origine dans l'enfance, ça se refixe, je dis ça rapidement, hein, ça se refixe au moment de l'adolescence et au moment où l'individu, la personne, se réorganise, si vous voulez, ou réorganise l'ensemble de ses pulsions et de sa dimension sexuelle. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait comme ça des étapes. Hein. Et je crois, oui, ce que vous dites me paraît tout à fait juste. Alors, par rapport à cette question-là, il y a toujours la difficulté, c'est d'expliquer tout par les origines, vous voyez. Alors, il faut être aussi prudent. À la fois, c'est une clé de compréhension, mais en fait, en même temps, ça ne dit pas tout, quoi, vous voyez. Parce que sinon, on rentre dans un système de « c'est à cause de, à cause de, à cause de ». Mais enfin, je veux dire, ce principe de causalité, si vous voulez, me semble pas suffisant pour apprécier, disons, une addiction.
Il y a un truc qui me semble que je voudrais juste témoigner d'éléments qui ont été partagés dans notre groupe de partage, simplement. Il est apparu chez plusieurs qui ont partagé que dans les commencements, d'abord, il y a des événements spirituels qui ont fait que pour les uns, c'était découvert que Dieu existe, pour d'autres, c'était quelque chose qui fondamentalement a été une expérience spirituelle forte. Et puis par la suite, d'autres renaissances se sont ancrées et nourries de cette première expérience-là. Et le moteur qui fait que les renaissances ultérieures ont pu s'ancrer sur une première expérience spirituelle fort personnelle, c'est, enfin en tout cas, moi je l'avais dit, donc il me semble que d'autres l'avaient dit, mais voilà, c'est parce que on a fait l'expérience que ce que Dieu avait fait dans le passé, pour moi, pour d'autres, pour son peuple, pour tout ça, eh bien, il le referait aussi pour moi dans l'avenir, et que les renaissances ultérieures qui s'enracinent sur une première expérience spirituelle, c'est l'expérience que, oui, la confiance en Dieu est possible. Parce que c'est Dieu, lui, qui est fidèle, si moi je ne le suis pas. Et que du coup, ça, il ne m'est pas nécessaire d'avoir confiance en moi, il suffit, je peux avoir confiance en Dieu, parce que Dieu, lui, est fidèle, si moi je suis là. Et que ça, c'est un chemin qui, en tout cas, peut m'aider à voir mes propres chutes.